Introduction. La partie de la philosophie qui traite de l'art est appelée esthétique. L'esthétique est la réflexion sur les formes et fonctions de l'art. Elle réfléchit également sur le beau, sur la nature de la création des œuvres d'art, sur le rôle et la place de l'artiste dans la société. Le dictionnaire Lalande la définit comme toute production de beauté par les œuvres d'un être conscient. À travers cette définition, il apparaît l'idée que l'art est une œuvre spécifiquement humaine. Le mot « esthétique » vient du grec « aesthétique », sensation, perception, ou de « aesthésin », sens. Il désigne la faculté de sentir tout ce qui a un rapport avec le beau. Le terme fut introduit en 1750 par le philosophe allemand Alexander Gottlieb Baumgarten. Mais avant que l'esthétique ne soit constituée comme discipline, l'homme a toujours produit des œuvres d'art, à l'instar des primitifs qui peignaient des scènes de chasse sur les grottes, les cavernes et les pierres. C'est l'art rupestre. Le mot « art » n'a pas toujours désigné les beaux-arts. Il renvoyait à la technique, à toute technique permettant de produire un résultat. Ici, l'art est une habileté, un savoir-faire, une maîtrise, etc. Exemple, l'art culinaire, l'art martial, l'art de gouverner, etc. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le terme est essentiellement utilisé pour désigner les beaux-arts. Nous examinerons ici quelques conceptions philosophiques de l'art et les fonctions de l'art. Ensuite, nous répondrons aux questions suivantes. La raison philosophique peut-elle et doit-elle expliquer l'art? Le langage est-il apte à exprimer ce qu'on ressent face à une œuvre d'art? Quelles sont les relations entre l'art et la vérité? Grand 1 l'art, imitation ou création? On a longtemps conçu l'art comme une imitation ou une reproduction de la nature, puisque nous avons des beautés naturelles comme la mer, la forêt, les fleurs, etc., qui mériteraient d'être bien vues sur des tableaux. Ces beautés naturelles doivent inspirer l'homme dans sa tâche artistique. C'est dans cette mouvance que s'inscrit Albert Dürer qui dit « Plus ton œuvre sera conforme à la nature, meilleure elle sera ». La copie qu'on tire de la nature fixe les beautés naturelles dans les maisons à travers, notamment, des tableaux d'art. Il est désormais possible de contempler les œuvres de la nature sur nos murs. Mais copier ou imiter, est-ce réellement faire de l'art? En d'autres termes, l'art est-il simple imitation de la nature? Selon Hegel, l'art n'est pas imitation de la nature. Pour lui, une œuvre d'art doit être une création. Pour ce faire, il faut s'inspirer et imaginer pour bien produire, au lieu de reproduire ce qui, en réalité, est connu de tous. Il considère que l'imitation de la nature est une occupation oiseuse et superflue. Les théories de l'art suivantes nous permettront de marquer davantage l'opposition entre l'art comme imitation et l'art comme création. 1. Le point de vue de Platon. La première théorie du beau est celle de Platon. À la question « qu'est-ce que le beau ?», il répond que c'est la splendeur du bien. Pour lui, la beauté ne se distingue pas de la beauté morale et il s'assimile au bien. Platon estime que le beau est une idée, un concept du monde intelligible. La beauté sensible est, selon lui, une copie imparfaite du beau intelligible. Exemple, une belle femme ou une belle marmite ne sont que des copies imparfaites de la femme ou de la marmite en soi. Il en déduit que la beauté artistique est une illusion, car elle copie la beauté sensible qui est elle-même une copie imparfaite de la beauté intelligible. L'artiste imite donc ce qui est déjà imité. Il y a chez Platon une dévalorisation de l'art. L'artiste cherche à imiter la nature, les objets du monde sensible. Or, ce monde est fait d'apparence, ce qui l'amène à dire qu'il faut chasser les artistes et les poètes de la cité, car, dit-il, ce sont des illusionnistes. Dans la cité idéale de Platon, il n'y aura pas d'artiste. Pour lui, l'artiste prétend peindre la réalité, alors que la vérité ou la réalité n'est pas de ce monde sensible, mais bien du monde intelligible. 2. Le point de vue d'Aristote dans la poétique. Aristote s'est démarqué de Platon en ce qu'il opéra un retour au monde. Aristote critique son maître et soutient que, plus qu'une imitation de la nature, l'art achève des choses que la nature est incapable de réaliser. L'art serait une recréation. Aristote accorde une place centrale à l'apparence dans la beauté artistique. Il écrit « L'art complète en partie ce que la nature ne peut pas achever ». Dans sa conception de l'art, Aristote établit quatre causes qui président à la création de l'œuvre d'art. La cause matérielle, par exemple, une coupe sacrificielle est faite d'argent. La cause formelle, la forme de la coupe. La cause finale, elle est conçue dans un but précis. Et la cause efficiente, c'est l'homme qui rassemble les trois premières causes pour concevoir l'objet. 3. La théorie du beau chez Kant, Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, peut être considéré comme celui qui a révolutionné l'esthétique. Dans son ouvrage critique de la faculté de juger, il considère que le beau est une finalité sans fin, c'est-à-dire que la beauté est en elle-même sa propre fin. Devant une œuvre d'art, on ne demande pas à quoi ça sert, car, dit Kant, elle ne sert à rien sinon qu'à susciter un sentiment de plaisir chez celui qui l'aperçoit. Le beau est donc désintéressé. Autant il est désintéressé, autant il doit plaire à tout le monde, d'où la formule de Kant. Le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Kant est également considéré comme le représentant de la théorie de l'art pour l'art, opposée à l'art engagé. L'art engagé est celui qui est au service d'une cause politique ou sociale, alors que l'art pour l'art a uniquement une fonction de produire le beau, comme l'ont enseigné les Parnassiens pour qui l'art ne sert à rien. On retrouve la même idée chez Théophile Gautier, qui estime que « il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid ». Selon Kant, l'art doit être exclusivement au service de l'art. Il insiste par ailleurs sur la créativité de l'artiste qui ne doit pas se limiter à une simple imitation de la nature. Il écrit à ce sujet « L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. » Autrement dit, une chose peut paraître laide, horrible ou tragique dans la nature, mais dès qu'elle est représentée sur un tableau, elle devient belle. Et c'est ce que Boileau a si bien expliqué dans cette formule « Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux. » Donc, l'art n'est pas une simple imitation de la nature, mais un ajout. Prenons l'exemple de Guernica, ce célèbre tableau de Picasso où est représenté le massacre de la guerre d'Espagne. Dans la réalité, ces images inspirent le dégoût, mais sur le tableau, elles inspirent le beau et plaisent à la contemplation. En somme, nous retiendrons avec Kant que l'art n'est pas une imitation, mais une création de la part de l'artiste qui doit, par son génie, ajouter une touche personnelle à la nature. 4. La conception de Hegel. Hegel estime que l'art est l'expression des préoccupations d'une société. L'art est donc le reflet en même temps que le produit des idées, des sentiments, des passions d'une société à une étape de son histoire. On retrouve chez Hegel une analyse de la différence entre la beauté naturelle et la beauté artistique. Pour lui, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle, parce que, dit-il, on peut ajouter dans l'art ce qui ne figure pas dans la nature. Comme pour répondre à Hegel, Blaise Pascal s'est écrié en ces termes « Mais qui est cette créature qui s'émerveille devant sa propre œuvre et ne s'émerveille pas devant l'œuvre de Dieu ?» Mais Hegel ne se soucie pas de la création divine. Il estime que la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle. Mieux, il considère que la plus mauvaise des productions de l'homme sera toujours supérieure au plus beau des paysages, car l'œuvre d'art est le moyen privilégié par lequel l'esprit humain se réalise. Ce qui l'amène à dire que l'art n'est pas une simple imitation des merveilles de la nature. Il est recréation. Transformation de la nature, transfiguration du réel, au sens où l'artiste est celui qui, du laid, crée du beau. L'artiste doit disposer d'un don naturel, d'un génie que Vladimir Jankélévitch appelle ce « je ne sais quoi ». Et dans cette transfiguration du monde, conclut Hegel, c'est toute une vision du monde de l'artiste qui intervient. On dit alors que l'artiste manifeste son imagination, exprime sa personnalité dans son œuvre, ce qui veut dire que l'œuvre d'art est le reflet de la personnalité de l'artiste.